10h, 11h, et puis c'est tout sur RCN, avec la communauté de pratique Épilepsie Handicap Nord-Est.
Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission que nous vous présentons sur RCN, l'émission Épicé Tout qui chaque mois traitera de l'épilepsie, un sujet important puisque l'une des maladies les plus fréquentes en France et pourtant les plus méconnues. Je suis très heureux de démarrer cette nouvelle aventure avec vous. Bonjour Audrey, bonjour Céline.
Bonjour.
Vous nous accompagnerez durant toute l'année sur ce projet d'émission, sur cette émission sur l'épilepsie. Je rappelle que vous êtes toutes les deux animatrices de la communauté de pratique épilepsie et handicap, c'est bien ça?
Oui, c'est tout à fait ça.
Et porteur du projet et animateur de ce projet d'émission qu'on fera donc tous les mois. Avec nous également dans ce studio, le docteur Kuchenbusch. Bonjour docteur.
Bonjour monsieur.
Vous êtes notre premier invité. Vous êtes maître de conférence et praticien au CHRU de Nancy. Vous êtes pédiatre également et responsable du centre de référence des épilepsies rares de Nancy. J'ai bien tout dit?
C'est parfait.
Parfait. Vous êtes nos spécialistes aujourd'hui et avec vous tout à l'heure on découvrira plus précisément ce qu'est l'épilepsie. Je le disais, une maladie très courante en France et pourtant très peu connue. Donc vous nous donnerez quelques éléments de compréhension pendant cette émission. Également avec nous, deux témoins. Je suis très heureux de vous accueillir toutes les deux. D'abord Ségolène. Ségolène que nous, ici, on a le plaisir de connaître à RCN puisque tu viens très régulièrement nous donner un coup de main dans la vie de cette radio.
Bonjour.
Bonjour Ségolène. On peut dire que tu souffres d'épilepsie.
Oui, c'est ça.
Et que tu nous raconteras ton parcours dans quelques minutes. Hein, et on parlera ensemble de c'est quoi aujourd'hui vivre avec une épilepsie. Et puis avec nous également Marie-Agnès. Alors vous êtes maman de quelqu'un qui est épileptique, qui souffre d'épilepsie, je préfère dire ça comme ça d'ailleurs. Donc on dit de vous que vous êtes une mère aidante.
Oui, tout à fait. Bonjour voilà. Tout le monde.
Bonjour
oui.
Marie-Agnès. Et puis vous êtes également présidente de l'association Accueil Épilepsie Grand Est.
Oui, tout à fait.
Parfait. Ouais. Chaque mois, je le disais, on abordera un sujet autour de l'épilepsie. Ce mois-ci, on va donc parler d'abord de ce qu'est l'épilepsie, parce que c'est important de mettre un contexte, de poser des éléments de compréhension. Et puis après, j'imagine qu'il y aura plein d'autres thématiques. J'ai entendu dire qu'on parlerait de sport et d'épilepsie. Qu'on parlerait de la crise d'épilepsie, donc il y aura beaucoup de sujets à aborder tout au long de ces émissions qui arrivent désormais sur RCN chaque deuxième mardi du mois et que vous retrouvez également à d'autres moments dans notre programmation et qu'on est très heureux de vous proposer. Alors, pour démarrer cette émission, Audrey et Céline, vous êtes allés avec le micro RCN dans la rue rencontrer le public et vous avez posé des questions à ce public. Quelle est la première question que vous avez posée? On va écouter les réponses, mais quelle est la première question qui a été posée? Qui de vous deux?
C'est moi.
C'est toi, Céline.
Alors, la première question était, c'est quoi l'épilepsie pour vous? Une question très générale.
Oh bah, l'épilepsie, c'est pas terrible quand même, tout ça. Bah, c'est l'épilepsie, c'est quand vous tombez par terre, tout ça, là, vous faites des crises de convulsions, tout ça, là, c'est ça? Ouais, c'est pas jojo.
Alors l'épilepsie, pour moi, je l'imagine sous forme de crise, quand on fait des crises d'épilepsie, donc j'imagine des convulsions.
C'est une maladie déjà, avant tout. Ouais, je pense que voilà, c'est une maladie, c'est une crise qui... C'est une crise qui peut arriver peut-être pendant une angoisse, non? Je sais pas, après j'en ai déjà vu devant moi.
Eh ben, l'épilepsie se caractérise par des tremblements assez virulents de la part de la personne, avec une phase après l'épilepsie, qu'on dit, je sais plus le nom, d'endormissement, avec peut-être des bavements, où il faut mettre la personne en PLS, mais surtout pas l'arrêter de faire sa crise.
Et après l'épilepsie, c'est un peu une maladie aussi. C'est une maladie où en fait on n'a plus le contrôle de soi avec les différentes couleurs qui changent par seconde quoi. Donc pour moi l'épilepsie ouais c'est ça quoi.
Bah c'est les gens qui font qui tremblent quoi, qui font des crises, qui sont stressés peut-être, je sais pas, et ils se mordent la langue aussi.
Ça part du cerveau et c'est le corps qui réagit en mode de...
Beaucoup de choses qui ont été dites dans ce micro-trottoir. On va essayer de démêler le vrai du faux et on aura toute une heure pour le faire. Moi, j'ai entendu qu'il y avait les couleurs qui changeaient. On vérifiera ça dans un instant. Peut-être que chacun peut dire un mot sur ce qu'il vient d'entendre. Qu'est-ce que vous en retenez de ce micro-trottoir, de cette première partie? Je commence par qui? Par le docteur? Par la maman aidante? Par qui?
Le docteur. Moi, je peux commencer.
Allez.
Ce qui me vient à l'idée, c'est le fait qu'on confond beaucoup les différents termes et que c'est quelque chose qu'on rencontre assez classiquement, en fait, la confusion de ces termes.
Donc preuve qu'il faut à un moment donné soulever les idées reçues.
Tout à fait.
Et on va le faire.
C'est ça.
Comptez sur moi, j'ai pas mal de questions à vous poser en ce sens. Marie-Agnès, quelques réactions sur ce micro-trottoir?
Oui, donc beaucoup d'idées reçues. Et justement, le fait de faire cette émission permettra justement de donner un éclairement.
Eh ben, c'est ce qu'on espère faire, effectivement, tout à fait.
Savoir un peu ce qu'il faut faire, pas faire, qu'est-ce que c'est l'épilepsie?
Eh ben, on a toute une heure là pour effectivement en parler. On a entendu beaucoup de choses, on a entendu maladie, crise, mais aussi angoisse. On verra si tout ça se mélange ou pas. Ségolène, un mot sur ce micro-trottoir, sur ce que tu viens d'entendre?
Eh ben, il y a des choses vraies et fausses, tout à fait, des idées reçues à supprimer, parce qu'il y en a quand même plus que des idées vraies, j'ai l'impression, en fait.
Bah justement, hein, je sais qu'effectivement, mais il y a aussi beaucoup de croyances hein, dans tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont ancrées depuis longtemps. On en reparlera avec toi tout à l'heure. Tu es dans l'association depuis un petit moment maintenant et on a appris à connaître un certain nombre de choses. Mais j'avoue, quand on n'est pas confronté directement à une situation, on peut pas toujours tout savoir. Effectivement, et c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle. Audrey, un mot sur ce micro-trottoir.
Oui, alors bah, nous, le micro-trottoir, on a entendu toutes les réponses, donc on est un peu biaisé, mais on a effectivement entendu, c'était un peu mélangé entre soit des idées très farfelues, et on va en entendre après quelques-unes, soit des gens qui avaient une expérience et qui du coup se basaient sur leur expérience, soit pour un proche, soit parce qu'ils en ont été témoins une fois. Mais qui est forcément toute relative à leur expérience.
On a entendu hein, notamment l'histoire de la mise en PLS, notamment, et qu'il fallait surtout pas empêcher quelqu'un de faire sa crise d'épilepsie. Oui. Ça fait partie peut-être des conduites à tenir dont on pourra parler évidemment tout à l'heure. Céline, quelques mots sur ce micro-trottoir qu'on vient d'entendre.
Oui, bah, sans répéter ce qui vient d'être dit, effectivement, quelques confusions du vrai, du faux. Je dirais plutôt des confusions et une difficulté peut-être à faire la part des choses.
Ok. Voilà. Et ben on va refaire le point sur tout ça. Audrey. Oui. La deuxième question que vous avez posée aux gens dans la rue.
Eh bien justement, c'était de savoir s'ils avaient une idée de quelles en étaient les causes.
Bah, c'est une maladie, je pense. C'est dans le corps, c'est chaque personne a ses problèmes. Et puis je pense que c'est comme ça, quoi. C'est une maladie, voilà.
Mais l'épilepsie, c'est quand des personnes qui ne supportent pas la lumière, les flashs, les gros flashs, quoi.
C'est héréditaire ou non? C'est héréditaire.
Pour moi, c'est une personne du coup qui tombe et qui va se mettre à convulser quand elle a eu un stimuli trop fort. Donc stimuli, je dirais, enfin, visuel en partie avec les lumières vu que c'est le plus répandu. Mais je pense qu'il y a aussi tout ce qui est sensoriel aussi qui entre en compte.
C'est neurologique. Ça doit être un dysfonctionnement de transmetteur ou je ne sais quoi.
Ah bah, elles peuvent être diverses et variées les causes. Hein. Suite l'épilepsie, moi je connais quelqu'un qui est épileptique suite à avoir eu un accident de circulation, un trauma crânien. J'en connais d'autres de par le travail qui sont nés épileptiques parce que c'est héréditaire par les parents ou la famille plus ancienne entre guillemets, grand-père, grand-mère ou autre. Puis voilà, mais c'est souvent un problème neurologique.
D'accord. Problème neurologique, hérédité, stimuli visuels, beaucoup de choses encore qui ont été dites. Là, je me tourne tout de suite vers le docteur. Il y a des choses vraies, des choses fausses là-dedans?
Alors, c'est surtout le dernier témoignage qui est assez juste, puisque finalement, il y a en effet des épilepsies qui sont symptomatiques de traumatisme ou de lésion, et des épilepsies qui sont héréditaires. Après, les autres témoignages montrent beaucoup les confusions, encore une fois, sur cette maladie qui est très fréquente mais méconnue.
Ok, on reviendra notamment sur l'histoire de la lumière, c'est un truc qui revient beaucoup. On va essayer de comprendre pourquoi cette idée-là reste dans la tête des gens et voir si c'est vrai ou pas vrai. Je continue, Marie-Agnès.
Alors oui, moi je rebondis sur le fait que les gens ont dit que c'était une maladie. Ouais. Effectivement, c'est une maladie, mais il n'y a pas de microbes là-dessus. Donc moi, en fait, j'ai vécu le fait qu'on voulait enlever mon fils de l'école pour ne pas que les autres enfants attrapent l'épilepsie. Voilà, c'est juste mon témoignage là-dessus.
C'est pas une maladie qu'on se redonne.
Non, pas du tout.
comme d'ailleurs beaucoup de maladies. Hein,
oui, comme beaucoup de maladies, mais celle-là n'en fait pas partie.
Donc, il y a beaucoup de maladies qui ne se redonnent pas, justement.
Hein, redonnent
voilà,
pas,
exactement, comme beaucoup de maladies, absolument. Ségolène, sur ce que tu viens d'entendre.
Ben, l'épilepsie héréditaire, moi par exemple, c'est pas du tout mon cas en fait, c'est une épilepsie idiopathique, ça s'appelle, que j'ai, donc sans cause, sans traumatisme, il n'y a eu aucun élément déclencheur qui me l'a provoqué.
Donc toi, c'est la notion d'hérédité qui t'interpelle un petit peu, parce que c'est pas ce qui te...
Ouais.
Ok, très bien. Céline?
Oui, à nouveau, pas mal de croyances et en même temps des propos assez étayés par rapport à l'origine neurologique. Je crois que voilà, le sujet reste extrêmement complexe en fait, complexe et multiple, et qu'on aura tout le temps d'aborder ça au fur et à mesure des émissions.
Aurore, de ton côté?
Alors, sur Audrey, mais c'est pas grave.
Audrey, pardon, Aurore. J'ai Aurore en face de moi qui vient me voir.
Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je retiens aussi, c'est cette idée que il y a peut-être une confusion encore entre les causes de la maladie et les causes des crises. Et je crois qu'on a entendu un petit peu deux choses qui sont deux choses différentes finalement, mais c'est tout l'objet de cette première émission, on est ravis.
On va en reparler dans un instant avec le docteur Kuchenbusch, les causes de la maladie et les causes de la crise, effectivement. Je pense que c'est deux choses dont il faut qu'on parle dans un instant. La dernière question que vous êtes allée poser dans la rue, je crois que c'est toi, Céline, qui doit nous la donner.
On est parti sur que pensez-vous qu'il faille faire face à une crise ?
Moi, mon papa, qui est décédé maintenant, était médecin cardiologue et il m'a toujours dit qu'il fallait sortir la langue de la bouche de la personne. Alors, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait en pratique, mais il m'a dit qu'il fallait dégager les voies respiratoires et que ça pouvait sauver des vies.
Mon amie le sentait quand ça arrivait. Donc, quand elles le sentent, elles se mettent en sécurité aussi. Je pense que c'est une habitude à prendre.
Bah, pour moi, c'est dangereux, oui, parce que s'ils peuvent s'étouffer, j'ai entendu qu'ils peuvent s'étouffer. Et il ne faut pas les toucher, normalement, quand ils sont comme ça, parce que sinon... Ils sont fous.
Faut retenir sa langue, avec un bout de bois, pas sa main. Hein, c'était bien ça.
C'est ce qu'on vous avait appris à faire
À l'armée.
Ils bavent. Les épileptiques, ils y bavent, oui.
Ça se passe bien. Les gens arrivent à gérer eux-mêmes leurs crises en général. Enfin, les gens que je connais.
C'est le traitement quand même.
Votre épileptique, évidemment. Il faut mettre en PLS. Il faut surtout pas retenir la langue parce que les gens disent souvent il faut lui accrocher la langue, la langue avec une pince à cornichon. Combien de fois je l'ai entendu? Au SAMU, je vous promets, pardon, on a entendu ça. Hein. Avec une pince à cornichon pour éviter qu'il l'avale. On n'avale jamais sa langue.
Est-ce qu'il faut une pince à cornichon, docteur Schoenbuch? Est-ce que c'est vraiment un outil qu'on doit avoir tout le temps dans sa poche?
Une cuillère.
On l'entend souvent, la cuillère, effectivement. Ouais.
Oui, donc en fait, ça, c'est des choses qu'on rencontre beaucoup en consultation. Hein. La réalité, c'est qu'il ne faut rien mettre dans la bouche. D'abord, le muscle qui tient la mâchoire, qui est le muscle masséter, est un muscle très puissant qui couperait des doigts lorsque le patient épileptique serre la mâchoire. Et le risque que vous avez, si vous mettez une cuillère, c'est que l'enfant ou l'adulte se casse une dent et l'inhale, et la mette dans ses poumons. Et en fait, le patient devient bleu, en effet, mais c'est dû au fait que la commande respiratoire ne fonctionne plus. Donc il n'y a aucun intérêt à mettre quoi que ce soit dans la bouche du patient épileptique.
D'accord, on va évidemment y revenir très longuement, mais on a bien entendu la pince à cornichon, vous l'oubliez celle-là. Marie-Agnès ?
Oui, en fait, pas... au niveau des réactions, en tant que parent, moi, j'ai surtout demandé aux médecins ce qu'il fallait faire. Voilà, donc c'est le PLS, c'est mise en sécurité, et puis attendre que la crise se passe.
Bon, on reverra ça, effectivement, on parlera aussi des traitements tout à l'heure. Un petit mot aussi, Ségolène ? Sur ce qu'on vient d'entendre.
La langue, il ne faut pas toucher la langue des patients. Ça, on laisse leur
langue. En plus,
ce
n'est pas très hygiénique, quoi.
On les laisse, on attend que la crise passe et puis les mettre en PLS un petit moment jusqu'à ce qu'ils reprennent complètement.
Bon, dans un instant, avec le docteur Schoenbuch, on va découvrir ce qu'est réellement l'épilepsie. Vous allez nous expliquer dans quelques instants d'où ça vient, comment on peut devenir souffrir d'épilepsie, d'où vient ce trouble. Et puis, on reparlera aussi des causes de la crise. C'est intéressant d'en parler. On est là vraiment aujourd'hui pour expliquer ce qu'est l'épilepsie. Évidemment qu'on va aller dans les clichés. Je tiens à le préciser, comptez sur moi. On va écouter tout de suite Teddy Swims sur RCN avec Lost Control, qu'on peut écouter maintenant. Mathis, tu peux l'envoyer. Et puis dans un instant, on explique ce qu'est l'épilepsie. Bienvenue dans Épi, c'est tout, votre nouvelle émission sur RCN qui chaque mois traite des épilepsies. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, bright magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling. Next.
in me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not here with me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me.
Deezer, 11h sur RCN. Et puis c'est tout.
Votre nouvelle émission, désormais, chaque mois, où nous parlerons d'épilepsie, l'émission des épilepsies. D'ailleurs, c'est un sujet, docteur Kuchenbusch. Alors, je rappelle que vous êtes maître de conférence et praticien au CHRU de Nancy, que vous êtes pédiatre et aussi responsable du centre de référence des épilepsies de Nancy. On parle d'épilepsie ou des épilepsies ?
On parle des épilepsies, il y a environ 40 syndromes épileptiques. Et que ça soit à la fois les crises épileptiques ou l'épilepsie, en fait, elle est multiple en réalité.
D'accord. Alors l'épilepsie, on voulait en parler parce que c'est vrai que c'est une maladie ou un maladie trouble, qu'est-ce qu'on doit dire, maladie là,
pour c'est une maladie chronique.
Maladie chronique, ouais. Qui est l'une des maladies chroniques les plus répandues en France.
Tout à fait, c'est la deuxième cause en France après les migraines de pathologie neurologique.
D'accord.
Ça touche environ 700 000 personnes, principalement pour moitié des enfants, avec deux grands pics d'âge, le moins d'un an et le plus de 75 ans.
C'est-à-dire qu'entre les deux, on a moins de risque de...
C'est ça, il y a moins de risque de devenir épileptique entre les deux. Souvent les crises commencent soit avant un an, soit après 75 ans.
Alors ça se manifeste comment l'épilepsie ? Qu'est-ce que c'est cette maladie, ce trouble-là ?
Alors d'abord l'épilepsie c'est une décharge électrique à l'intérieur du cerveau, je pense qu'il faut le voir comme ça, qui va se propager, partir d'un point A et se propager. Et en fonction de sa propagation, elle va avoir des manifestations cliniques multiples. D'abord, il faut bien imaginer que tous les animaux qui ont un cerveau ou des neurones peuvent convulser, que ce soit la mouche, le lombric,
ouais.
les chiens, c'est des animaux qu'on utilise en expérience, mm-hmm. expérimentalement. Et finalement, en fait, notre cerveau, quand il atteint un certain degré d'électricité, entre guillemets, une certaine limite, il va se mettre à convulser. On utilise notamment l'électroconvulsivothérapie dans les dépressions gravissimes pour faire sortir les patients de dépression. C'est utilisé au niveau thérapeutique. Et on a tous un seuil, et ce seuil il va être varié en fonction des individus. Et il y a des individus qui vont avoir un seuil plus bas, comme les enfants, et qui vont pouvoir déclencher plus facilement des crises d'épilepsie.
D'accord.
que les adultes, en fait.
Et idem pour les personnes au-delà de 75 ans, alors, du coup.
Exactement, idem pour les personnes de 75 ans, où quand vous allez consommer des toxiques comme de l'alcool, mm-hmm. vous allez abaisser votre seuil. Vous allez être fatigué, vous allez abaisser votre seuil. Vous allez être stressé, il va y avoir des facteurs comportementaux qui vont faire que le seuil s'abaisse et que vous risquez de faire plus de crises. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de l'angoisse comme un facteur déclenchant une crise d'épilepsie. C'est une possibilité, parce qu'elle va venir abaisser le seuil épileptogène et donc favoriser l'apparition de crises.
Quand on est épileptique, on fait forcément des crises d'épilepsie.
Alors, quand on est épileptique, on a au moins fait une crise d'épilepsie dans sa vie. Mais ça peut être qu'une seule. L'idée, c'est qu'il faut bien distinguer la crise d'épilepsie de la maladie épileptique. La crise d'épilepsie, ça peut être un symptôme. Quand vous avez, par exemple, une intoxication, vous pouvez faire une crise d'épilepsie sans pour autant être épileptique.
D'accord.
L'épileptique, c'est quelqu'un qui va faire une crise d'épilepsie et qui va avoir un facteur de récidive important.
Alors du coup, c'est ce que je comprends bien. La crise d'épilepsie ou l'épileptique, les deux sont une maladie chronique ?
Non, la crise d'épilepsie est un épisode.
D'accord,
est
donc
un événement.
On peut avoir souffert d'une crise d'épilepsie et que ce soit unique dans sa vie, qu'il n'y en ait pas d'autre.
Tout à fait, exactement. D'ailleurs, a priori, il y a environ 4000. J'avais vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des crises épileptiques, j'ai pas le chiffre, excusez-moi, qui avaient des crises d'épilepsie sans être épileptique, bien sûr, c'est assez fréquent pour nous.
D'accord. Et l'épilepsie, alors l'épileptique, ou donc la maladie chronique,
le patient
épileptique, la maladie chronique. Alors c'est quoi ? Ça veut dire que ce seuil, on l'a et que régulièrement, le cerveau produit plus d'électricité que le seuil ne permet de le supporter ?
C'est qu'on a des zones de faiblesse, en tout cas à l'intérieur du cerveau, qui vont favoriser les crises d'épilepsie. Mmh. Elles peuvent être dues à des malformations, comme on en a parlé tout à l'heure, ou à des causes héréditaires, avec par exemple des anomalies de canaux ioniques à l'intérieur du cerveau qui font que la barre est beaucoup plus basse.
D'accord.
Et il y avait une autre confusion tout à l'heure, c'était la confusion entre la crise d'épilepsie et la convulsion.
Ah.
La convulsion, c'est la manifestation motrice d'une crise d'épilepsie. Mais une crise d'épilepsie peut ne pas être motrice, en fait. Il faut bien imaginer qu'il y a énormément de symptômes épileptiques. Il y a des patients qui ont des crises de rire, d'autres des crises de pleurs. Il y a des patients qui ont des champs visuels qui deviennent pixelisés, comme les tableaux de Van Gogh. Il y a des patients qui sortent de leur corps et qui se voient par derrière. il y a des patients qui entendent une musique particulière. Ce qui fait l'épilepsie, c'est que c'est toujours le même symptôme pour le même patient. C'est le côté stéréotypé qui se reproduit qui fait l'épilepsie.
Mais alors comment, aujourd'hui on le voit bien, c'est une maladie qui est finalement très méconnue. Comment on peut savoir qu'on doit consulter et se dire que peut-être on souffre d'épilepsie? Parce que ce que vous nous dites là, aujourd'hui dans l'imaginaire collectif, l'épilepsie c'est effectivement la convulsion, c'est effectivement la personne qui se met à avoir des convulsions, à bouger pas. Mais c'est pas, on n'imagine pas qu'on puisse avoir une crise d'épilepsie qui soit presque invisible du coup pratiquement.
Et bien c'est le côté justement stéréotypé, c'est-à-dire que par exemple les crises de rire, le patient va avoir un rire figé subi. C'est pas du tout quelque chose qui est volontaire, en fait. Il n'y a pas d'émotion dans ce rire, c'est un rire mécanique.
D'accord.
C'est le côté, justement, d'une manifestation atypique se répétant régulièrement. Il faut savoir que ces crises, en fait, elles peuvent commencer comme ça, puis se poursuivre au fur et à mesure jusqu'à la grande crise, en fait, la généralisation. Et là, il va y avoir les signes moteurs qui vont apparaître. Et tout notre travail, ça va être justement d'essayer de comprendre quel est le premier signal, ce qu'on appelle le signal symptôme, qui est l'élément le plus localisateur. Si vous me dites par exemple, j'entends d'abord une musique, je sais que ça va se situer dans un lobe temporal de votre cerveau. Ça va me permettre de m'orienter dans la carte cérébrale en fait.
D'accord, oui, parce qu'on est sur une maladie neurologique.
Tout à fait.
Donc l'idée pour vous, c'est de trouver la zone du cerveau où se situe l'anomalie.
Tout à fait. Alors ça, c'est dans les épilepsies dites focales. C'est-à-dire qu'elles vont, comme ça, commencer par un endroit du cerveau et se propager. À côté de ça, il y a les épilepsies dites généralisées, où tout l'ensemble du cerveau part en même temps en fait. Donc, mais dans les épilepsies focales, qui ont tendance à être assez résistantes aux médicaments, il va y avoir un enjeu important qui va être d'essayer de comprendre d'où ça part.
D'accord, ouais, effectivement. Et ça, on le sait à quel moment que c'est focal ou général?
Alors c'est la présentation de la crise, c'est la description clinique de la crise. Il y a aussi l'électroencéphalogramme qui va permettre d'enregistrer l'activité électrique du cerveau, qui va permettre de mieux comprendre où sont localisées les anomalies. Et puis après, il va y avoir souvent des IRM cérébrales, donc pour aller regarder en imagerie la structure du cerveau pour voir s'il n'y a pas une malformation. Mais souvent, cette malformation est toute petite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi on a du mal à identifier les causes de l'épilepsie. D'abord, c'est parce que nous, les médecins, on a du mal à les trouver. On a 50% de patients pour lesquels on est incapable de savoir la cause, même si on la suspecte. J'entendais donc tout à l'heure ma collègue me parler des épilepsies généralisées, idiopathiques, dites idiopathiques.
Qu'est-ce qu'on peut dire ce que c'est pour que nos éditeurs comprennent ce que veut dire une épilepsie
c'est
idiopathique?
C'est un groupe d'épilepsies la plus fréquente qui correspond à des crises particulières que sont les crises généralisées ou les absences épileptiques qui sont un type particulier de crise. Mais a priori, il y aura une émission sur l'étude de crise, donc je pense que vous pourrez en apprendre plus sur cette émission. Et donc c'est dit idiopathique, ce groupe d'épilepsies. Et en fait, le terme idiopathique et a été beaucoup critiqué, parce qu'en fait, idiopathique, ça veut dire qu'on ne connaît pas la cause. Mais la réalité, c'est qu'on pense que c'est dû à un ensemble de gènes. On pense que ça appartient à des épilepsies dites génétiques, en fait.
Donc, quand on parlait d'hérédité, il y a vraiment un facteur héréditaire dans l'épilepsie aujourd'hui?
Alors, il y a beaucoup d'épilepsies qui sont héréditaires. Il y a une partie plus faible des épilepsies qui sont symptomatiques, qui sont dues à une lésion cérébrale, pour le coup. Et souvent des saignements ou des tumeurs, parce que c'est vraiment ça qui va favoriser, qui va abaisser les seuils.
Tout à l'heure, on entendait une dame qui disait qu'elle connaissait des gens qui étaient épileptiques et qui étaient devenus suite à un traumatisme crânien. Donc ça veut dire que globalement, soit c'est héréditaire, soit on a eu à un moment donné un traumatisme, quel qu'il soit, ce soit une maladie liée au cancer du cerveau par exemple.
Tout à fait.
Quelque chose qui appuie sur le cerveau, sur une zone du cerveau, c'est ça qu'on doit comprendre? Alors, et qui crée cette épilepsie?
Pas forcément qui appuie, mais en tout cas qui va abaisser le seuil. Parce que par exemple, typiquement, les tumeurs cérébrales chez l'enfant font très rarement convulser. C'est plutôt une problématique de la personne âgée. L'enfant, lui, va présenter des troubles neurologiques, il va présenter des vomissements, des céphalées, mais c'est pas un mode de révélation classique des tumeurs chez l'enfant. C'est plutôt le cas chez la personne très âgée, en fait.
Pour comprendre ce que c'est, cette histoire de seuil, là, vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que le seuil, on imagine que c'est comme si on avait une échelle de 1 à 10 et qu'on supportait plus ou moins bien, c'est ça? Qu'est-ce qui fait que le seuil est différent? Vous disiez tout à l'heure, par exemple, la consommation d'alcool, c'est ça qui peut jouer?
Qui va abaisser le seuil.
Alors, l'idée, c'est quoi les autres facteurs, du coup?
Alors, donc, il y a la fatigue, il y a l'âge. C'est-à-dire qu'en grandissant, les enfants vont augmenter leur seuil, ce qui fait qu'il y a des épilepsies qui n'existent que dans l'enfance qui vont disparaître à l'âge adulte.
D'accord.
Il y a le tabac. Il y a le stress, l'anxiété, il peut y avoir les flashs lumineux, on en a entendu un peu parler,
oui. Chez,
dans certains cas d'épilepsie, mais ça on pourra peut-être revenir là-dessus. Et au contraire, en fait, ce qui va permettre d'augmenter le seuil, c'est les traitements anti-épileptiques qui vont venir stabiliser en fait, le réseau neuronal et qui vont permettre à ce réseau neuronal d'être beaucoup moins sensible aux variations.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on peut, alors ne pas, on guérit pas l'épilepsie, en tout cas si elle est...
Alors c'est pas vrai, on peut guérir de l'épilepsie. Il y a un cas particulier où on guérit l'épilepsie, c'est si vous êtes opéré d'une malformation cérébrale qu'on vous enlève.
D'accord.
Et dans ce cas-là, vous pouvez être même libre de traitement médicamenteux.
Ok.
C'est un cas particulier, mais la plupart du temps, hélas, oui, on ne guérit pas d'épilepsie, mais on peut avoir une on peut avoir dans 60-70% des cas une vie sans crise d'épilepsie sous traitement.
Oui, ça, c'est un peu comme d'autres maladies, comme le diabète par exemple, qui peut être équilibré grâce à un traitement.
Tout à fait, sauf qu'on a quand même 30% de résistance. C'est-à-dire qu'on a quand même un tiers des patients qui va être résistant sous traitement, c'est-à-dire qu'il va avoir des crises. L'idée étant chez ces patients avant tout d'améliorer leur qualité de vie en limitant les crises ou en les améliorant, en faisant en sorte qu'elles soient moins fortes.
Et donc les traitements fonctionnent bien chez ces gens-là.
Chez ces gens-là, les traitements fonctionnent bien.
Qu'est-ce qu'on fait pour ceux pour qui les traitements sont, ne fonctionnent pas? Il n'y a rien à faire? Il faut juste accepter qu'on va vivre avec des crises régulières?
Et ben c'est
difficile
ces
de dire.
C'est chez ces patients-là qu'on va essayer de trouver une lésion, en fait.
D'accord.
C'est plutôt des épilepsies focales. Donc c'est là où on va essayer de trouver une lésion et essayer de voir si on peut les opérer.
Ok.
En même temps, c'est important comme question, mais c'est complexe, puisqu'il va falloir enlever une zone cérébrale. Donc quand on enlève une zone cérébrale, il faut déjà comprendre si elle est fonctionnelle ou pas. On ne peut pas surhandicaper nos patients.
Bien sûr. Ouais.
Donc par exemple, vous enlever la fonction d'une main, ce n'est pas possible. Donc il va falloir localiser la zone épileptogène. Alors ça, c'est fait au CHU, notamment par des enregistrements où les électrodes sont placées à l'intérieur du cerveau.
D'accord.
Pour vraiment faire une cartographie plus fine du cerveau et comprendre le réseau lui-même. Après, hélas, il y a des patients chez qui... notamment les patients ayant une épilepsie vraiment génétique, où c'est difficilement équilibrable et ils vont avoir des crises en effet. Alors il y a des traitements qui peuvent être faits, comme la stimulation du nerf vague, qui est en fait un pacemaker qui est mis directement sur les nerfs vagues, donc sur un nerf du cou, et qui va envoyer régulièrement un courant électrique pour essayer de limiter les crises d'épilepsie. Mais ça va être vraiment un travail sur la qualité de vie là.
Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça quand même dans le traitement de l'épilepsie. Finalement, le traitement il est là pour améliorer la qualité de vie globalement.
Alors le traitement, il est là pour améliorer la qualité de vie. Et tout à l'heure, j'ai oublié quand vous m'avez dit est-ce qu'on peut guérir l'épilepsie? Oui, les enfants qui vont grandir, une bonne partie va guérir de l'épilepsie.
De façon naturelle?
De façon naturelle. Parce qu'en grandissant, la maturation cérébrale va augmenter le seuil épileptogène.
D'accord.
Et ils vont quitter l'épilepsie.
Donc pour les parents qui nous écoutent et qui auraient des enfants qui souffrent d'épilepsie, c'est pas forcément quelque chose qui va durer.
Tout à fait.
C'est ce qu'on peut leur dire, leur passer comme message ce matin.
Tout à fait. Alors, ça dépend vraiment des syndromes épileptiques, pour le coup.
D'accord.
Parce qu'on a dit qu'il y avait une quarantaine d'épilepsies.
Oui, alors c'est ça. Ouais, il y a beaucoup d'épilepsies différentes. C'est quoi la différence entre les différentes épilepsies? Alors, on a compris, il y a l'épilepsie généralisée, c'est ça. Celle qui est liée à une zone du cerveau qui subit un traumatisme, par exemple, ou autre. Il y a quoi d'autre?
Alors, en fait, on a une quarantaine de syndromes épileptiques, bien sûr. On a une quarantaine de syndromes épileptiques qui ont des caractéristiques propres, que ce soit des âges de début, des types de crises, et qui vont nous permettre de les classer. En fonction des classements de ces épilepsies, on va avoir une meilleure approximation du pronostic et des traitements à envisager. Alors hélas, quand on dit qu'on classe les épilepsies, il y en a quand même une partie qu'on n'arrive pas à classer. Je dirais que ça doit être 30 à 40% qu'on n'arrive pas à classer correctement dans les cadres. Donc là, du coup, on va être dans des traitements symptomatiques en fonction du type de crise. Mais il y a des syndromes épileptiques, comme par exemple le syndrome de Dravet, qui est une épilepsie très grave, où hélas, on sait que la pharmacoresistance est très commune. Et là, le pronostic n'est pas pour une guérison à l'âge adulte. On sait que les patients vont être épileptiques et qu'il va falloir essayer d'améliorer leur qualité de vie au maximum.
Très bien. On peut revenir sur les causes. Vous parlez tout à l'heure de la lumière, justement. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Les flashs de lumière, ça joue sur le développement de l'épilepsie?
Alors, ça ne joue pas du tout sur le développement de l'épilepsie. Par contre, c'est un facteur déclenchant connu d'épilepsie. Alors, on a tous cet imaginaire-là, c'est surtout parce que dans les années 80, il y a eu un épisode de Dragon Ball Z, où il y a eu des grands flashs lumineux et il y a eu énormément de crises d'épilepsie au Japon. Donc c'est pour ça que ça a beaucoup marqué l'imaginaire collectif. La réalité, c'est qu'on est passé sur des écrans plats avec des fréquences de rafraîchissement beaucoup plus rapides et que c'est très rare d'avoir des crises liées à l'écran visuel. C'était principalement une histoire d'écran cathodique et de fréquences de rafraîchissement qui étaient encore très faibles à l'époque.
C'était facteur d'épilepsie ou de crise d'épilepsie?
C'est les facteurs de crise d'épilepsie.
On est d'accord.
Chez le patient épileptique. C'est vrai que c'est plutôt là qu'on va les retrouver. C'est ce qu'on appelle la photosensibilité. Donc c'est ce qu'on teste aussi aux électroencéphalogrammes. On envoie des flashs lumineux qu'on enregistre le cerveau pour visualiser ou non la réponse cérébrale anormale à ces flashs lumineux. C'est relativement rare, les photosensibilités.
D'accord.
Et les patients qui ont de la photosensibilité sont plutôt prévenus qu'ils en ont.
Oui, ils le savent assez vite.
On leur dit
qu'ils
sont sensibles aux écrans, qu'il faut qu'ils fassent un peu attention.
Vous disiez les écrans aujourd'hui se rafraîchissent plus, donc aujourd'hui le téléphone portable n'est pas un danger pour quelqu'un qui souffre de crise d'épilepsie liée aux flashs lumineux?
Beaucoup moins qu'avant, oui.
Ouais.
Parce que les fréquences de rafraîchissement, on est sur du 60-80 Hz maintenant sur les écrans, donc on a beaucoup moins de risques.
D'accord. C'est quoi les facteurs de risque aujourd'hui qu'il faut connaître pour des personnes qui souffrent d'épilepsie et qui peuvent générer des crises?
Alors, on avait dit tout à l'heure, c'est donc la fatigue, le tabac.
Ah oui, pardon, c'est vrai qu'on en a parlé.
C'est tout cela.
Oui, absolument. Je pense que je revenais sur les écrans. Tout à fait. Non, mais c'est pour bien rappeler les choses.
Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci.
Une petite question. On va aller un peu dans des questions qu'on peut lire et entendre partout. Est-ce que si on a 35 ans, qu'on n'a jamais eu d'épilepsie, on peut devenir épileptique ou on est à vie protégé?
Ah non, hélas, c'est pas parce qu'il y a deux grands pics d'épilepsie qu'on ne peut pas devenir épileptique à l'âge adulte. Notamment par des accidents de la vie, comme on l'a dit tout à l'heure. Après, est-ce qu'on peut commencer une épilepsie à l'âge adulte? Mais bien sûr qu'on peut commencer une épilepsie, notamment focale, à l'âge adulte.
D'accord. C'est une maladie nerveuse, l'épilepsie?
Oui, c'est une maladie du cerveau, du système nerveux central.
Ok.
Quand on dit nerveux, c'est vrai qu'on a tendance à avoir le côté nerveux de comportement. Nervosité de comportement, ça n'a pas beaucoup de rapport en fait.
Oui, c'est ça, c'est nerveux dans le sens où c'est les nerfs, enfin c'est le système électrique du cerveau, c'est ça. La dépression, ça peut être l'origine de l'épilepsie?
Non, la dépression, c'est une comorbidité. C'est-à-dire que quand on est épileptique, on peut avoir plus de difficultés à vivre et ça favorise la dépression. C'est aussi dans le fait que c'est mal accepté au niveau de la société.
Si je continue dans ce registre-là, les personnes épileptiques ne peuvent pas faire de sport, c'est un fait, c'est pas vrai?
Alors c'est pas vrai, souvent ça leur permet de travailler sur le seuil épileptogène et d'avoir plutôt tendance à faire moins de crises. Encore faut-il que le sport soit adapté à la situation. C'est-à-dire que si vous me dites, je vais faire de la plongée ou de l'alpinisme, je vous dirais non, parce que c'est quand même pas raisonnable.
D'accord. Et la boxe?
Et la boxe, ça se discute.
Ça se discute, avec un casque et dans certaines conditions.
C'est ça, là, il faut adapter le sport pour le coup.
La route, la circulation, prendre le volant quand on est épileptique?
Alors, la route, d'abord, ça va dépendre des types de permis. Les permis professionnels, généralement, c'est 10 ans sans crise, donc c'est très difficile pour un patient épileptique, et c'est pas raisonnable, en fait, de prendre un métier de la route. Nous, on n'a pas le droit de les dénoncer. Il y a le secret médical, donc moi, j'ai pas le droit de dénoncer des patients épileptiques qui conduisent. Par contre, je les informe que l'assurance ne les couvrira pas.
Oui.
S'il y a un accident, l'assurance ne les couvrira pas parce qu'ils n'ont pas le droit de conduire et qu'ils ne l'ont pas déclaré à la commission du permis de conduire.
Voilà, comme beaucoup de maladies chroniques, d'ailleurs.
Tout à fait. Et donc, le patient épileptique doit passer devant la commission du permis de conduire qui doit valider l'utilisation de son permis. Ça, c'est le permis lambda.
C'est comme pour le diabète, c'est-à-dire que c'est un médecin désigné par la préfecture, c'est ça qui contrôle.
Sachant qu'il faut plusieurs mois, voire années sans crise avant de pouvoir conduire.
D'accord.
Et que si vous faites une crise, vous ne pouvez plus conduire pendant au moins 6 mois.
Une fois qu'on a déclaré à la préfecture.
Non, c'est la loi.
Non, c'est... Oui.
C'est-à-dire que même si vous ne déclarez pas la préfecture, à partir du moment où vous avez convulsé, si vous êtes passé aux urgences, si on sait que vous avez convulsé, vous ne pouvez pas conduire pendant 6 mois.
D'accord. On peut pratiquer n'importe quel métier?
Non, il y a des métiers qui sont interdits pour la personne épileptique, notamment tout ce qui est l'armée, les policiers. On imagine bien que le pilote d'avion, c'est pareil, tout ce qui va être dans le transport, c'est pareil.
Au moment de l'atterrissage, ça peut être délicat.
C'est ça. Il y a aussi tout ce qui va être la marine, en marine marchande, etc. Ça va être interdit puisque c'est trop dangereux de faire des épilepsies sur un bateau. Et après, souvent, dans ces cas-là, moi j'ai eu des patients, par exemple, couvreurs qui étaient épileptiques. Et c'est vrai que se diriger pour être couvreur quand on est épileptique, c'est un grand risque de perdre son emploi. Donc il faut quand même s'orienter de manière intelligente en fait quand on est épileptique.
On peut le faire, mais il faut voilà.
C'est pas là, il fait une crise, c'est fini, personne n'acceptera qu'il aille sur un toit.
On reparlera d'ailleurs de la difficulté de trouver du travail quand on souffre d'épilepsie ou de ce type de maladie. Les grossesses déconseillées chez les femmes souffrant d'épilepsie?
Non, pas du tout. Alors après, c'est bien de les prévoir parce qu'il y a des médicaments qui sont contre-indiqués ou qu'on essaye de limiter pendant la grossesse. Mais la femme épileptique, non, on peut avoir des enfants comme toute personne.
On peut voyager en avion?
Oui. Sous couvert quand même qu'on a son traitement d'urgence, je pense.
Oui.
Parce qu'il faut pouvoir avoir une prise en charge n'importe où.
Rapide et efficace, ouais. Ok. On va continuer de parler ensemble de l'épilepsie. Dans un instant, on va interroger maintenant nos témoins, Ségolène et Marie-Agnès. Et vous nous raconterez votre parcours de vie. Et je pense que vous répondrez un peu à toutes ces questions également. Le temps pour nous d'écouter Ella Eyre sur RCN. Much time doing the wrong thing. I've been running around the same.
to chase the cash. Walk alone, the pavement cracks. Mama came up with my ass, cause I lost myself on loser stash. Who want money, yeah. Being broke ain't that funny, yeah. Remember when we had nothing, yeah. All the roaches and mice were my friends. Got a TV, no license. Can't be for the rices, crisis. My life is a shock, I hate surprises. I asked my grandma, my wife, this keeps happening. She said you had your head in the ground too long.
CN, et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie handicap Nord-Est.
Toujours en direct pour parler d'épilepsie, cette nouvelle émission qu'on vous propose chaque mois pour parler alors d'épilepsie, des épilepsies, je corrige parce qu'on a parlé de 40 épilepsies, hein, c'est ça docteur.
40 syndromes.
Et 40 syndromes. Et juste un petit mot, c'est vrai qu'on en parle en antenne, vous le disiez, le cerveau est quand même quelque chose de fantastique. Vous disiez, il peut allumer une lumière et contenir tout Internet.
Oui, tout à fait, c'est qu'on, la capacité dendritique, elle a été révélée il n'y a pas très longtemps, en fait, elle est en capacité de d'avoir tout Internet en fait dans un cerveau en réalité.
Ce qui est assez exceptionnel. Mais alors du coup on se posait la question en rigolant, on disait mais pourquoi il faut qu'on aille sur OK Google quoi. Et vous nous disiez parce qu'on peut effectivement.
On a la capacité d'effacer. Et ça c'est important aussi parce que quand on a trop d'informations en fait ça vient perturber notre fonctionnement en réalité. Donc c'est important aussi de pouvoir faire de la place pour les nouvelles informations.
Absolument, le cerveau est même quelque chose d'assez fantastique. J'accueille avec nous, donc vous êtes déjà depuis le début mais je vous accueille maintenant officiellement avec nous, Ségolène. Merci. Et Marie-Agnès. Alors vous êtes nos témoins du jour. Ouais. Par qui je commence? Ségolène, Marie-Agnès, qui a envie de nous raconter son histoire? Peut-être qu'on peut commencer par Ségolène. Ségolène, tu nous disais tout à l'heure, moi je souffre d'épilepsie, une épilepsie idiopathique. D'abord, est-ce que tu peux nous raconter comment c'est apparu dans ta vie et comment tu vis un peu aujourd'hui avec cette épilepsie?
Alors, j'ai 32 ans, donc je suis épileptique depuis l'enfance, depuis l'âge de 10 ans et demi. Donc, ça s'est arrivé par un état de mal, mon épilepsie.
Un état de mal, c'est-à-dire?
Un coma.
Ah oui, d'accord.
Un coma léger. Et donc, j'ai pu continuer quand même ma scolarité au collège, au lycée, malgré des crises récurrentes, mais j'ai jamais réussi à être stabilisée, malheureusement. Donc, ça a un peu perturbé mon histoire.
Donc, ça fait 22 ans maintenant que tu vis avec l'épilepsie. Tu fais des crises de façon très régulière encore aujourd'hui.
Oui, c'est toujours le cas. J'en fais environ 5 à 7 par mois. Donc, c'est vrai que c'est assez récurrent.
On a parlé d'ailleurs des crises tout à l'heure, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément dit, c'est qu'après une crise, il y a aussi une énorme fatigue du malade. C'est ce que tu vis?
Oui, donc ça c'était pire quand j'étais plus jeune. C'est vrai qu'après des crises, j'avais beaucoup des fortes migraines. Il fallait que je reste au lit, au repos, presque des demi-journées, voire journées entières. Ça, heureusement, ça s'est amélioré. Je me remets un peu plus vite avec les années, heureusement, oui.
Toi, quand tu vis une crise, tu as les spasmes, enfin les convulsions, c'est ça, entre autres. Une crise, elle se manifeste comment chez toi?
En fait, je perds connaissance complètement. Ce sont des crises fortes, tonico-cloniques, donc avec une perte de connaissance. Et quand je me réveille, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé, en fait. Donc je suis pas vraiment capable de définir précisément, mais en tout cas, ce que je peux voir, bah, c'est des petites blessures, comme par exemple des morsures, des bleus, des cocards, si je me suis fait mal. Là, quand je me réveille et que je vois ça, ben, j'ai compris ce qui s'est passé là.
Alors, allons-y justement sur la conduite à tenir quand on voit quelqu'un qui vit une crise d'épilepsie. On en reparlera aussi avec vous, Marie-Agnès. Mais globalement, qu'est-ce que toi, tu conseilles aux gens qui t'entourent si tu fais une crise d'épilepsie?
Alors, ce qu'il faut faire, c'est alors déjà me mettre en PLS, donc position latérale de sécurité.
On peut juste expliquer pour ceux qui nous écoutent comment c'est quoi la PLS. On met sur le côté, c'est bien
ça.
On met le genou du dessus par-dessus pour bloquer le corps, c'est bien ça.
Pour pouvoir respirer, et s'il y a des pertes de salive, ne pas bloquer la respiration, pour pas que ça reste bloqué dans la bouche. Donc me mettre en PLS et puis attendre que la crise passe, parce que ça dure vraiment quelques minutes. Je reviens rapidement à moi. Après, c'est tout ce qu'il faut faire. Il n'y a vraiment rien de spécial. Donc malheureusement, ça se passe pas toujours comme ça. Quand j'en fais dans la rue, en public, les gens qui voient ça pour la première fois, ils sont assez... choqué, c'est vrai que ça fait peur voir quelqu'un qui perd connaissance comme ça. Donc du coup, ils appellent le SAMU et du coup, moi, je me retrouve bloquée là-bas plusieurs heures et sans aucune utilité. Mais bon, après, moi, je peux comprendre. C'est sûr, je serai à la place des gens là. Je verrai quelqu'un inconscient. Je ferai sûrement la même chose, quoi. Donc là, je sais pas trop.
Docteur Cushenbush, est-ce que ça veut dire qu'on doit pas appeler le SAMU si on voit quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie?
Non, je pense qu'hélas, il faut appeler le SAMU. Si on connaît pas la personne. Si par exemple, il y a les parents auprès de l'enfant et que les parents connaissent très bien l'épilepsie de leur enfant, je pense que c'est aux parents de décider, en fait. Mais dans un cas où on voit quelqu'un qui part dans une crise d'épilepsie, ce que décrivent beaucoup les familles et les gens, c'est cette impression que la personne en face d'eux va mourir immédiatement. On a l'impression que la personne en face va mourir d'un coup. Donc il faut d'abord noter l'heure, c'est la première chose à faire, parce que le temps va devenir...
Alors voilà, ça c'est un point important.
Va devenir gigantesque, c'est-à-dire 3 secondes, ça va vous paraître 3 minutes. C'est des secondes d'éternité.
Parce que la durée d'une crise d'épilepsie, elle est importante pour le corps médical.
Pourquoi elle est importante? Parce qu'on sait très bien qu'il y a deux types de crises d'épilepsie, des crises d'épilepsie qui s'arrêtent à 3 minutes et des crises d'épilepsie qui vont jusqu'à 30-40 minutes. Donc pour savoir un peu où on en est, la barre a été fixée à 5 minutes, et au bout de 5 minutes de crise, il faut qu'on mette un traitement pour stopper les crises, parce qu'on a des phénomènes où le cerveau va s'auto-entretenir en fait.
D'accord. Ça a des conséquences, une crise d'épilepsie, d'ailleurs, sur le cerveau.
Alors ça, c'est une question qu'on a souvent. La réalité est que non, le cerveau n'a pas de lésion due à des convulsions, sauf si celle-ci dure longtemps. Dans les modèles animaux, chez la souris, c'est des crises de plus de 30 à 45 minutes qui vont commencer à avoir un impact cérébral.
Ségolène,
mais les crises courtes n'ont pas de conséquences.
Ségolène nous raconte qu'elle n'a pas la mémoire à ce moment-là et que tu m'avais déjà expliqué que tu peux perdre la mémoire pendant un petit moment derrière.
Oui, il me faut un temps pour revenir à moi, oui, c'est ça.
Et ça, l'épilepsie a un rôle sur la mémoire? C'est quoi? C'est selon la zone du cerveau qui est touchée?
Ça dépend des zones impliquées.
C'est les zones.
Tout à fait. Et alors si c'est une crise généralisée, typiquement il y a une perte de conscience. Et la crise généralisée a deux phases, une phase justement où la personne va devenir tonique, puis elle va avoir donc tonique toute raide, puis après clonique, elle va avoir des secousses, puis ça va s'arrêter, elle va être comme endormie, ronflante, avec une hypotonique toute molle, avec parfois une perte d'urine et de sel.
D'accord. Et donc il y a beaucoup de choses.
Ça, c'est la partie post-critique. La crise est déjà finie sur cette partie-là.
D'accord. Ségolène, tu vis seule aujourd'hui?
Oui, c'est ça.
Comment ça se passe? Est-ce que tu sens, je vais poser une question peut-être complètement idiote, tu sens arriver une crise d'épilepsie ou pas? Est-ce que c'est quelque chose, tu te dis tiens, ça va m'arriver là?
Oui, alors avant mes crises, j'ai quasiment toujours une aura, ça s'appelle. Donc les auras, c'est des sensations indéfinissables. Je n'ai jamais su expliquer au neurologue ce que je ressentais exactement, mais c'est toujours la même chose à peu près. Donc c'est vraiment une sensation, une impression d'être mal à l'aise, un peu oppressée. Et c'est vrai que quand je sens ça, presque à chaque fois après...
La crise survient.
Voilà. Okay. trouvé mal.
Je vais me tourner vers vous, Marie-Agnès. Alors oui. Vous êtes de l'autre côté. Vous êtes une personne qui a, donc vous avez votre fils qui souffre d'épilepsie.
Exactement.
Vous êtes ce qu'on appelle une mère aidante parce que vous avez effectivement accompagné votre fils jusqu'à ce qu'il ait l'âge de vivre sa vie aussi. Comment on vit ça quand on est parent? Comment on vit la découverte de l'épilepsie et comment on vit l'épilepsie de son enfant?
En fait, pour moi, ça a été une vraie découverte. Enfin, mon fils a eu un accident de la vie quand il était bébé.
D'accord.
Donc, il a été hospitalisé. Et à la sortie de cette hospitalisation, j'ai demandé donc aux différents médecins qui étaient là s'il y avait donc un risque de handicap. Mmh. Et là, très honnêtement et très franchement, les médecins m'ont dit « Écoutez, il est encore bébé, on ne peut pas vous dire. » Donc, voilà ce que j'ai accepté. Mmh. Et donc, j'ai repris mon enfant à la maison et nous l'avons élevé comme notre première fille, puisque je suis déjà maman d'une première fille. Mmh. C'est à partir de l'âge de 6 ans que Corentin donc, a commencé à faire une crise d'épilepsie à la sortie de la sieste. Et là, je ne connaissais pas du tout l'épilepsie. Donc, j'ai observé ce que c'était. Et puis, naturellement, ça ne tombe jamais dans les bons moments. On était loin de la maison, loin du médecin généraliste. J'ai donc appelé mon médecin généraliste. C'est arrivé une fois, deux fois, une première journée, une deuxième journée. Et puis, j'ai expliqué au médecin généraliste ce que c'était. Donc, il m'a dit, OK, donc, je vous prends rendez-vous chez un neurologue. Et donc là, a commencé le parcours d'aller voir le neurologue qui nous a dit, on fait un électroencéphalogramme et qui est là, il a posé le diagnostic d'épilepsie. Il faut savoir que Corentin, suite à son hospitalisation de quand il était bébé, était déjà sous traitement d'un médicament que le docteur que je ne connais, c'est le Gardénal. Donc, depuis qu'il était bébé jusqu'à ses 6 ans, il a gardé toujours la même dose de Gardénal. Et moi, je ne m'étais pas spécialement renseignée. J'avais bien vu que c'était anti-épileptique, mais sans plus, quoi. Bon. Et puis, à partir du moment où l'épilepsie a été diagnostiquée, enfin, il y avait d'autres handicaps aussi qui arrivaient. La vue, le cognitif. Donc, tout ça cumulé, voilà. Donc, et puis l'épilepsie. Donc, on l'a vu les médecins du CHU. Il a été suivi et on a observé et soigné notre fils en fonction de ça. Quand vous avez un enfant de 6 ans qui fait quelques kilos et puis qui fait une crise d'épilepsie, en tant que maman, on peut le prendre dans les bras et on gère, ça c'est sûr. Au fur et à mesure qu'il a grandi, aujourd'hui il fait 1m80, 90 kg. Quand il part.
Ça devient plus difficile, vous n'êtes pas très grande, je ne sais pas, vous portez offense. Mais...
Voilà. Aujourd'hui, quand il fait des crises d'épilepsie, qu'on se retrouve dans un lieu extérieur, ma seule façon de faire quand je ne suis pas avec son papa, parce qu'on est maintenant, on est toujours tous les deux avec lui, un de chaque côté, à lui tenir le bras. Mais quand il fait une crise d'épilepsie, c'est de le prendre dans ses bras, je l'entoure de mes bras et je tombe avec lui.
D'accord.
Voilà.
Pour accompagner la chute.
Voilà, et pour le mettre justement en PLS mais pour ne pas qu'il tombe brutalement.
Oui.
Et s'il y a un environnement extérieur où il y a des risques de blessures, au moins comme ça, j'oriente.
Bien sûr.
En dehors de ces obstacles.
C'est un gros risque ça, docteur Kuchenbusch, l'environnement extérieur. Quand
tout à fait, d'ailleurs, c'est une des premières choses à faire, c'est de dégager l'environnement en fait. On note l'heure, on dégage l'environnement, on attend que ça passe. Si ça dure plus de 5 minutes et qu'on a un traitement, on l'injecte, un traitement d'urgence. Donc c'est dans la bouche, principalement, le bucolame. Et on met en PLS dès qu'on peut.
Votre fils a quel âge, Marie-Agnès, aujourd'hui?
27 ans.
27 ans. Et il vit seul?
Non. Il est en maison d'accueil spécialisée.
D'accord.
C'est donc la Massepi Grand Est d'Aumartal et Toul, qui est spécialisée dans des épilepsies pharmacorésistantes.
D'accord.
Avec d'autres patients, d'autres résidents qui ont tout plein de handicaps associés. Voilà. Et il est incapable de vivre seul.
D'accord.
Ouais.
Vivre seul pour quelqu'un qui souffre d'épilepsie, docteur, est-ce que c'est quelque chose qui est normal et qui peut se vivre, ou est-ce que vous conseillez justement plutôt globalement des aidants? Je pense à Ségolène, effectivement, qui vit seule. Et on parle du fait de devoir mettre un peu en protection la personne. Quand on est seul, on ne peut pas être mis en protection. On tombe là où on tombe, quelque part.
Tout à fait. Je ne peux pas dire plus.
Il
n'y
a rien à dire plus, ouais.
Non, en même temps, il faut bien que la personne épileptique puisse avoir sa vie. Donc, c'est un équilibre très complexe. Notamment chez. Là, on parle. Parce que la maman dont on vient d'entendre le témoignage, son enfant a aussi des handicaps cognitifs. C'est une épilepsie qui s'accompagne d'autres signes qui fait qu'il ne peut pas vivre seul.
Ouais.
Mais les gens qui n'ont pas ces handicaps cognitifs et qui veulent la vie la plus normale possible, c'est difficile de leur dire de ne pas vivre seul, en fait.
Voilà, non, mais c'était une question, c'est important de le dire aussi. On peut vivre seul quand on est épileptique. On peut avoir une vie absolument normale, comme tout le monde. Sur le marinier, tout à l'heure, en antenne, quand on préparait l'émission, vous me parliez du moment où les gens devant vous appellent les secours systématiquement s'ils voient une crise. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? On disait, les parents, par exemple, qui connaissent depuis toujours, peuvent agir aussi.
Moi, j'agis pour mon fils en public, quand c'est comme ça. Et puis, donc la personne qui a appelé les pompiers, je la regarde bien gentiment, puis je lui dis merci. Mais la première question à me poser d'abord, c'est de me demander si j'ai besoin des pompiers. Effectivement, si Corentin était tombé sur un objet contondant et j'aurais vu qu'il y avait une plaie, là, il n'y avait pas de souci. J'appelle les pompiers bien parce que je ne sais pas quelles sont les conséquences de cette plaie sur sur son état physique. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui accompagne la personne qui fait une crise d'épilepsie, la première question au public à poser, c'est de savoir est-ce qu'il y a lieu d'appeler les pompiers ou pas. Voilà. Et effectivement, comme disait le docteur Kuchenbrück, nous, on regarde le temps.
Bien sûr,
même si le temps pour nous paraît très 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 long, le temps que la crise se fasse, mais on finit par les connaître, les crises de notre fils. Moi je ne suis experte que sur l'épilepsie de mon fils.
En
fait la problématique des pompiers vient principalement qu'en fait le pompier quand il se déplace, il est obligé de ramener la personne aux urgences.
Voilà, c'est ça j'allais
c'est
dire.
Ça, ouais. C'est ça qui est primordial en fait, et c'est vrai que du coup il faut aller aux urgences, et puis il y a le temps des urgences qui est très long.
Et la fatigue, parce que j'allais y venir, Ségolène, toi tu nous dis quand ça arrive et qu'on t'emmène aux urgences, le plus difficile c'est que t'es déjà fatigué de la crise. Mais que les urgences, c'est encore un moment de fatigue en plus.
C'est sûr, je serais mieux à me reposer chez moi, tranquille.
Mais encore une fois, quand on n'a pas l'information de savoir c'est quelque chose de connu ou pas connu, on est obligé d'appeler les pompiers.
Alors, oui, tout à fait.
Ségolène, d'ailleurs, sur elle, tu as une carte, je crois, sur toi, que les gens peuvent voir, où il y a toute la conduite à tenir aussi.
Oui, c'est une carte que j'ai toujours sur moi. Donc, si en général, les gens pensent à regarder dans mon sac à main et la trouvent, donc là, comme ça, ils savent ce qui m'arrive. C'est vrai que ça c'était une bonne idée, la carte, pour rassurer peut-être les personnes.
J'aurais tellement envie qu'on parle de plein d'autres sujets, mais l'heure tourne déjà très vite. Je vous avais dit, c'est très frustrant une émission comme celle-là. J'aurais aimé, Ségolène, qu'on parle aussi de l'intégration sociale et du travail. Mais je sais qu'il y aura aussi une émission sur le sujet. Marie-Agnès, j'aurais adoré qu'on continue cet échange. Juste, moi, une question que je voulais vous poser, Marie-Agnès. Comment vous allez-vous ?
Mal. C'est tout.
C'est dur.
Oui. Ouais. Surtout que l'épilepsie, au fur et à mesure que mon fils grandit, elle se modifie. Et donc, c'est ça qui est difficile à appréhender. Aujourd'hui, mon fils, il porte un casque.
D'accord.
Parce qu'il s'est fait un traumatisme crânien il y a 2 ans. Voilà, donc en faisant une crise d'épilepsie. Et au fur et à mesure qu'il avance en âge, voilà, ça se modifie. Je ne peux pas dire que ça s'améliore, je ne peux pas dire que ça s'aggrave, mais ça se modifie, tout simplement. Donc, je suis spectatrice, je fais tout ce qu'il faut pour que... Enfin, je fais avec l'aide médicale, avec les médecins, avec toutes les recherches qui sont faites au niveau des molécules. Les neurologues, épileptologues sont au courant de toutes les dernières recherches au niveau des molécules. À chaque fois, elles sont tentées pour Corentin, voir si ça lui convient, si ça lui convient pas. Voilà, donc tout ça, c'est pris en charge. Et puis, je vis... Alors, ce que je vous dirais simplement, effectivement, je vais pas super bien, mais je vis avec... Je ne fais pas sans. Voilà. Quand Corentin est à la maison, j'essaie de faire le maximum avec lui, de ce qu'il peut faire, mais je fais avec lui, pas sans lui. Voilà, c'est tout.
Le rôle des aidants est très important, on le sait, dans toutes ces maladies. C'est très important d'avoir des gens sur qui on peut compter, mais c'est aussi important de prendre soin d'eux. On vous souhaite de prendre soin de vous, Marie-Agnès. Merci d'être venue témoigner ce matin. Merci Ségolène, merci docteur Kuchenbusch. C'était passionnant, j'aurais adoré qu'on puisse poursuivre cet échange encore, et on le fera dans un mois. Quelques éléments de ressources, peut-être Audrey ou Céline, qui de vous deux nous donne quelques éléments qu'on peut aller trouver sur le net.
Je peux démarrer, alors...
Bien sûr.
Écoutez, il y a une émission, voilà, moi j'aime bien dire que Fred et Jamy sont assez
fantastiques.
Donc on peut vous conseiller de consulter l'émission Épilepsie, un orage, des orages même dans le cerveau, de C'est pas sorcier. Donc vous aurez toutes les références sur le site de l'émission. Il y a aussi un très intéressant reportage au CHU de Nancy dans le magazine de la santé, donc on retrouvera l'équipe de Dr Kuchenbusch.
Du professeur Maillard surtout.
Et du professeur Maillard, voilà. Vous pouvez également aller sur la banque de ressources de la communauté de pratique épilepsie et handicap, où là, à nouveau, de multiples ressources très diverses, très variées sont accessibles. Et puis, je vais laisser Audrey nous citer aussi les associations vers lesquelles vous pouvez vous tourner dans notre secteur.
Alors, oui, Audrey. Parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'associations de parents comme Marie-Agnès et de familles. Donc, Marie-Agnès le disait en introduction, elle est présidente de l'association Accueil Épilepsie Grand Est, donc elle est aussi à l'écoute d'autres parents. Mais il en existe d'autres qui ont, pour certaines, des pages Facebook. On utilise quand même bien les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc on mettra toutes les références, mais c'est vrai qu'il en existe beaucoup. Il y a beaucoup de ressources aujourd'hui en ligne disponibles. Donc,
Ne restez pas seul, voilà, c'est important. Merci à vous tous pour cette première émission que j'ai adoré présenter et j'ai hâte d'être le mois prochain pour qu'on poursuive ces échanges. Allez, un dernier appel, PLS si vous voyez quelqu'un qui souffre d'épilepsie, voilà, d'une crise d'épilepsie dans la rue, c'est PLS tout de suite, et si vous pouvez noter l'heure du début de la crise. Merci à toutes et à tous, on se retrouve dans un mois, on va se quitter en musique avec Baker Matt sur RCN. Très belle journée à tous et à très bientôt. Hey stranger, you look lonely, you could look a lot better if you put your hands on me. Came with friends but now I see only you and me. Hey stranger, see you walking.